écoutez Radio J, il est midi.
À la une de l'actualité, le 205e jour de guerre contre le Hamas et sur le front nord. De nouvelles attaques du Hezbollah dans la nuit, 26 roquettes tirées contre Israël. Le ministre français des Affaires étrangères est au Liban aujourd'hui. Stéphane Séjourné présentera des propositions pour éviter une guerre entre Israël et le Hezbollah qui est soutenu par l'Iran. La proposition de la France a été discutée avec ses partenaires, notamment les États-Unis, mais elle n'a pas progressé. L'analyse du diplomate israélien Yigal Palmor.
Ça ne va pas se jouer à Beyrouth, puisque ce qui se passe en ce moment, en fait, a commencé à Gaza. Le Hezbollah a rejoint le Hamas dans cette attaque tout à fait non provoquée. Et en fait, le Hezbollah conditionne tout apaisement de la situation au Liban à la situation à Gaza. On fait donc face à deux sbires iraniens qui sont plus ou moins gérés, entraînés, financés par l'Iran, qui se donnent la main, en fait, à Gaza et au Liban.
Yigal Palmor, diplomate israélien, le Hezbollah de son côté a affirmé qu'il ne voulait pas discuter tant qu'il n'y aurait pas de cessez-le-feu à Gaza. Israël souhaite pouvoir garantir le retour en sécurité chez eux des 80 000 Israéliens déplacés du nord d'Israël à cause justement des attaques quotidiennes du Hezbollah, groupe terroriste direct mandataire de l'Iran. La guerre psychologique du Hamas qui publie une nouvelle vidéo d'otages, un film où apparaissent Keith Siegel, citoyen américain de 64 ans, et Omri Miran, 47 ans. Dans ce film scénarisé par le groupe terroriste, les deux otages plaident pour que les manifestants israéliens qui protestent contre le gouvernement Netanyahou le fassent tomber. Sur les 133 otages détenus dans la bande de Gaza, seuls 95 seraient encore vivants. D'après la 12e chaîne israélienne, une réponse sur un accord à propos de la libération des captifs pourrait intervenir dans les 48 heures, mais un responsable israélien affirme que Jérusalem a refusé le retrait militaire total de la bande de Gaza et les autres exigences présentées par le Hamas. En Israël, les manifestations hebdomadaires pour la libération des otages et de nouvelles élections, manifestations hier soir à Césarée, près du domicile du Premier ministre israélien. Les protestataires ont repris en chœur leur slogan destiné à Benjamin Netanyahou à propos des otages. Que font-ils là-bas? Ils les abandonnent à Gaza. Appel similaire à Tel Aviv, avec là des milliers de personnes, et aussi dans le nord, à Pardes Hana Karkour, près de Hadera. Plusieurs dizaines de manifestants ont bloqué l'autoroute numéro 4 en brandissant des pancartes pour appeler à des élections anticipées. Une flottille pour Gaza bloquée en Turquie. La Guinée-Bissau refuse son pavillon aux deux navires de cette expédition. La coalition d'associations y voit le résultat de pression. Selon les termes employés par le communiqué de la flottille, la Guinée-Bissau est complice, je cite, de la famine délibérée imposée à Israël. En 2010, une précédente flottille de ce type avec des islamistes à bord d'un navire, le Mavi Marmara, a été au centre de la détérioration des relations entre la Turquie et Israël. Acheminer davantage d'aide à Gaza, justement, c'est le but de la construction d'un site sur les côtes du territoire, un projet porté par Jérusalem et Washington. Tsahal et le ministère israélien de la Défense ont diffusé hier les images des travaux en cours de ces fameux quais flottants. En France, après la fin du blocage de Sciences Po, le Premier ministre affiche sa fermeté. Il n'y aura jamais de droit au blocage, jamais de tolérance avec l'action d'une minorité agissante et dangereuse, a affirmé Gabriel Attal. Le père Christophe Lesourd, ce matin sur Radio J, a réagi de son côté à ces blocages à Sciences Po.
Bien sûr, nous sommes tous bouleversés de ce qui se passe, comme dira, à Gaza. Mais on ne peut pas imputer la totalité des faits, comme dire, au seul gouvernement israélien. Comme dire, évidemment, il doit y avoir la libération de la totalité des otages. Et là encore, on est très touché du fait qu'il y a un silence minéral en France vis-à-vis de nos concitoyens qui sont aujourd'hui détenus en otage. Bien sûr qu'il faut penser à la totalité des otages.
Le père Christophe Lesourd, directeur du service national pour les relations avec le judaïsme, qui était ce matin l'invité de Radio J, l'intégralité de cet entretien est notamment à retrouver sur notre compte YouTube.
Safpag, l'actu des écrans.
Hello, bonjour, c'est Serge Surpin qui vous propose, comme chaque semaine sur Radio J, en DAB, le dimanche, à 12h, SatMag, SatMag Hebdo. SatMag, c'est l'actu des médias, l'actu de la communication, l'actu des écrans. Au sommaire cette semaine dans ce SatMag Hebdo, on commencera par jeter un petit coup d'œil sur l'histoire de la télévision, racontée par notre ami Christian Dauphin. Et puis, parmi les sujets traités cette semaine, le groupe Bolloré. On parle beaucoup du fait de leur orientation politique, des chaînes C8 et CNews, sans oublier la radio et le journal Le JDD. Mais il y a surtout dans ce groupe de médias une chaîne qui est plus discrète. Pourtant, elle fonctionne bien, très bien, et se développe. Et elle est beaucoup moins critiquée que ses cousines, donc Canal+. On va jeter un gros coup d'œil sur cette partie du groupe qui est dirigée par une personnalité en place depuis très longtemps, Maxime Saada, à qui semble tout sourire. Le gros problème des médias, bien faire son travail d'informer, mais ça coûte cher. Certains le font sérieusement, d'autres moins. Justement, quel rapport ont les Français avec l'information? Bonne question. Amazon, mise sur la publicité avec son bouquet Prime, ce qui nous fait comprendre que la différence entre plateformes de vidéo à la demande et télévision est de plus en plus ténue. On jettera un gros coup d'œil sur les audiences de la télévision la semaine dernière. Et enfin, je vous donnerai quelques conseils sur ce qu'il faut regarder à la télévision la semaine prochaine. Et puis, il y aura peut-être encore d'autres sujets qu'on pourra traiter, si on en a le temps, dans ce SatMag.
SatMag, l'actu des écrans.
Vous écoutez Radio J.
Radio J.
עכשיו אל תעשי מלחמה אני אומר לא אל תשגעי אותי איזה פוזה יש עלייך בובתין חדי יאללה סי לכי חפשי זה לא את זה אני ממי אל תחסי תקשיבי אני מאוד אגרסיבי דליק מתלקח כמו בר אקטיבי אל תעליבי אותי אני לא כזה נאיבי ואת האמת לא משנה לי אם לא תגיבי אני ואת מיותר ממי לא ספורטיבי ואת רואה אני מנסה להיות פוזיטיבי ילצי מהפוזה של האסרטיבית אני הולך להביא אותה רטרואקטיבי ואין ספק שאת אוכלת סרט כולם יודעים שכל לילה אני עם אחרת מה לעשות? אולי את לא כזאת זוהרת אני לא מבין למה את לא מוותרת זה פשוט אני מדבר על איכות ועל כמות בלעדיי אתה עדיפי למות אז מי השולט פה ומי השפוט ואם תצליחי לשחק אותה לקחת אליפות וואו אל תנסי אותי למה אם אני דלק עלייך יאו ערדי בשביל מה? מה את סתומה? תרדי מזה עכשיו אל תעשי מלחמה אני אומר לא אל תשגעי אותי איזה פוזה יש עלייך בובתין חדי יאללה סי לכי חפשי זה לא את זה אני ממי אל תחסי
איך אתה תראה עצמי להיות כזאת
טיפשה, לא ציפיתי שבסוף אני אעשה תמימה. תאמין לי, היום כבר הבנתי מי יש לי עסק, זאת פעם האחרונה. עכשיו תקשיב טוב טוב מה אני אומרת, אני לא רוצה לשמוע שוב סליחה, אני עוזבת את המספר שלך, ברגע זה אני מוחקת, כי הצלצול שלך כבר לא עושה לי רטט, רטט, רטט.
אז מה תעשי לבד ואין לך רצת? אני בטוח שאת מתחרטת, אחד נשרטת בצ'ט אם את משוטטת, והאחרת יושבת פה ומסתלבטת. ממתי אני יוצא איתך למסיבה? יום שישי הייתי ונחשי מבח, חברות שלך נדרכו עלי חופשי, השתוללנו על הבר והיה בן בנזון. כנראה שלא הבנתי מי יש לך עסק, זה לא אישי, אני מקווה את לא כועסת. הייתה לך אפשרות לבחור, אבל בחרת לעשות את הסוף שחור. ומאיפה הבאת את אלה שענו לך? אל תיפגעי נשמה, אבל הם קלקלו לך. הג'וקר והמאפיה יעשו לך מחדש, הרבה מעריצים יהיו לך. וואו, אל תנסי אותי, למה אם אני דלק עלייך יאו ורדי? בשביל מה? מה את סתומה? תרדי מזה עכשיו, אל תעשי מלחמה. אני אומר לא, אל תשגעי אותי, איזה פוזה יש עלייך בובדין חדי. אלא סי, לכי חפשי, זה לא את זה אני מאמי, אל תחסי.
לא, אל תשחק איתי, בשום פנים באופן זה לא בשבילי. תרגע, מותק, תדע, אחת כמוני לא תמצא גם עוד מיליון שנה. אני אומרת לא, אל תשחק איתי, כי אין מצב שעוד פעם תבלבל אותי. תיזהר, אל תשקר, אני לא עוד אחת, לא רוצה סתם חבר. והיום אני לבד ולא כל כך נורא לי.
Satmag, l'actu des écrans.
Avant de jeter un coup d'œil sur l'actualité des médias cette semaine, on va faire un petit tour du côté de l'histoire de la télévision, raconté par notre ami Christian Dauphin.
Nous avons le contrôle total de l'émission. Asseyez-vous tranquillement. Nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez. Vous allez participer à une grande aventure et faire l'expérience du mystère avec...
La formidable aventure de la télé.
Live from Las Vegas, it's the Jerry Lewis Labor Day Telethon.
Le plus célèbre téléthon dont vous entendez le générique est celui créé par Jerry Lewis contre la dystrophie musculaire le lundi 5 septembre 1966. Mais l'acteur et son comparse Dean Martin avaient déjà animé une émission spéciale dès le mercredi 25 novembre 1953 sur la chaîne ABC.
Jerry Lewis's Labor Day Weekend Telethon, live and in color on this station.
Mais le vendredi 4 décembre 1987, le tout premier téléthon français est diffusé sur Antenne 2. L'association contre la myopathie, AFM, va ainsi récolter en France près de 30 millions d'euros, un véritable record mondial, largement même devant celui des États-Unis. Le compteur électronique de la première émission, qui prévoit un nombre composé de 8 unités, doit être repeint à la main sur le décor pour indiquer la centaine de millions de francs collectés. Réalisé par le regretté Jean-Pierre Spiro, père de l'animateur Florian Gazan, l'émission en direct, durant 30 heures non-stop, sera animée au fil des années par Claude Sérillon, Sophie Davant, Gérard Holtz, Patrice Lafont, Nagui ou encore l'incontournable Michel Drucker, toujours fidèle au rendez-vous annuel, même lors de son passage à TF1 en 1990.
Bonjour Michel.
Thank you Jerry to be here.
Thank you Michel. J'ai le droit de passer les vidéos, mais quand on prend pas les vidéos, pick up the phone.
Prenez votre téléphone.
Pledge the dollars.
Envoyez votre argent.
Merci.
Parmi les célèbres parrains de l'émission française, on compte son créateur Jerry Lewis, mais aussi Alain Delon, Claudia Cardinal, Pierre Perret, Thierry Lhermitte, Jane Birkin, Gérard Jugnot, Yannick Noah ou encore Cadmerad. Ce mardi 3 octobre 1972, vers 22h, la deuxième chaîne couleur de l'ORTF diffuse pour la première fois la série britannique Amicalement Vôtre. Elle réunit deux personnages, parmi lesquels Danny Wilde, joué par Tony Curtis, et Lord Brett Sinclair, interprété par Roger Moore, qui avait déjà connu le succès à la télévision avec la série Le Saint, mais qui n'a pas encore revêtu le costume de James Bond au cinéma.
Lequel de vous est Lord Brett Sinclair?
Oui, qu'y a-t-il? Merci.
Si vous pouvez voir ça, ça n'est pas très flatteur.
C'est un message du juge Fulton.
La musique du générique est signée John Barry, premier mari de Jane Birkin. Calmant Vôtre compte au total 24 épisodes et pour l'anecdote, John Collins, connu plus tard pour son rôle dans la série Dynasty, y fait une apparition. C'est tout pour aujourd'hui. Merci et...
Au revoir les amis, nous...
Mag, l'actu des médias.
כמו ילד מסתנבר מאורות מדומים רק הגוף לא הקשבתי לנפש לא עצרתי לספוך חטאים חודשים לא ראיתי את הבוקר לא אמרתי אפילו תודה כמו הזמן גם אני השתניתי עם השקט למדתי לשתוק לא פוחד להגיד שקשה לי זה מזמן לא אותם חלומות לא צריך כל דבר להשמיע יש שירים שהם רק בשבילי מברך גם אם עוד לא הגיע ומזל שמצאתי אותי רגע סוף זולים ככה בלי גבולות חברים טובים לכמה דקות לילה לילה רק למעלה והכל מותר לא צריך לישון מי יגיד בו לא לכוכב גדול איך הייתי חי אלוהים ישמור לילה לילה רק למעלה
Mag, l'actu des médias.
Dans la galaxie Bolloré, on parle beaucoup pour des raisons plus ou moins politiques, enfin plus politiques qu'autre chose donc, on parle beaucoup des chaînes de télévision C8 et CNews. On évoque la radio Europe 1 dans la ligne éditoriale et comment dire, elle se rapproche souvent des deux chaînes de télévision que je viens de citer. Côté presse, c'est pareil pour le JDD. Sans parler, enfin si je vais le faire, des autres branches du groupe, comme l'édition, dont une fois de plus, la presse a souvent évoqué la nouvelle orientation qui se rapproche des médias que je viens de citer. Pour revenir à la presse, n'oublions pas la surprise qu'a représenté la vente de Paris Match, dont le groupe Bolloré a tenté, là aussi, d'imposer une nouvelle ligne éditoriale plus conservatrice, mais les chiffres des ventes n'ont pas été concluants. Et donc, on a appris que le groupe LVMH allait en prendre le contrôle. Certains pensent qu'il y a eu un accord secret entre Vincent Bolloré et Bernard Arnault, patron de LVMH, lors de la prise de contrôle du groupe Lagardère, qui intéressait les deux groupes. Il se dit que Bolloré aurait promis à Arnault de revendre Paris Match dès que possible. Possible cette option, mais il y a un os dans la réflexion, sachant que Bolloré a accepté de revendre le magazine Gala, afin que les autorités de la concurrence lui donnent l'autorisation de prendre le contrôle du groupe Lagardère. Il aurait suffi à ce moment-là de revendre directement Paris Match, sans céder Gala. Une pépite. Donc, interrogation. Mais c'est pas le sujet de ma chronique aujourd'hui. Du groupe Bolloré, donc, on parle beaucoup de ses médias. Mais finalement, on évoque assez peu Canal+, la chaîne, le bouquet. Assez peu sujet aux critiques politiques. Sauf quand Vincent Bolloré décide que la chaîne ne diffuserait plus les guignols de l'info ou tout programme qui pourrait toucher à la politique. Tout au plus, on a évoqué Canal+, quand certains films ont été soit refusés, comme Grâce à Dieu, le film de François Ozon, qui osait critiquer l'église française. À l'inverse, Canal+, a cofinancé le film « Vaincre ou mourir », un film assez révisionniste produit par la famille De Villiers. Mais à part cela, Canal s'est tenu à peu près à l'écart de la politique. D'ailleurs, Canal a continué à financer toutes sortes de films, dont certains pas trop dans la ligne politique suivie par son propriétaire. Mais on parle beaucoup de Canal+, et de son patron, Maxime Saada, qui a fait que Canal+, garde sa place en France, et le groupe peut aussi se développer à l'international. En France, Canal+, se porte bien. Qui aurait dit cela alors que tout le monde des médias pensait qu'avec l'émergence des plateformes comme Netflix ou Prime, les chaînes payantes comme Canal n'avaient plus d'avenir. Pour l'instant, ça va pour Canal, dont on ne cesse d'annoncer de nouveaux partenariats et rachats. En plus, Canal+ se transforme en agrégateur de plateformes. Ainsi, en France, MyCanal intègre Netflix, Apple, Disney et d'autres bouquets. On est à peu près dans le style. Si tu ne peux pas battre un concurrent, associe-toi à lui. Il y a aussi des développements à l'international, la Pologne, le Vietnam, l'Afrique, sans oublier la plateforme M7, présente dans 7 pays européens. À la fin 2023, le groupe Canal+ comptait 10 millions d'abonnés en France et 16,6 millions à l'international, dont 8 millions en Afrique. Justement, dans ce continent, le chiffre va doubler avec la probable prise de contrôle de MultiChoice, le bouquet africain, anglophone et lusophone, aux 23,5 millions d'abonnés. Donc on va arriver aux alentours de 30 millions d'abonnés au total pour Canal+ dans le monde. À ces chiffres, il faut rajouter une participation portée récemment à 30% dans la plateforme de streaming View, basée à Hong Kong, mais très présente en Asie, Moyen-Orient et Afrique, dont on estime le nombre d'abonnés à plus de 12 millions. Pas mal donc pour ce groupe Canal+, dont personne ne misait un copec il y a peu. Oui, je sais, on ne doit plus parler de copec, c'est plus tendance aujourd'hui. Mais bon. Et comme on ne prête qu'aux riches, comme on dit, on parle d'un rapprochement avec l'américain Comcast, qui contrôle entre autres les bouquets Sky présents en Grande-Bretagne, Allemagne et Italie. Ce ne sont que des rumeurs. Mais si ça se faisait, d'une manière ou d'une autre, là, ça serait un très grand coup qui pourrait pérenniser le groupe. Cerise sur le gâteau, Maxime Saada, le patron de Canal, évoque dans un entretien accordé aux Échos la possibilité de prendre un jour le contrôle de la plateforme scandinave Viaplay. Bon d'accord, Canal n'est pas au niveau du nombre d'abonnés de Netflix, qui dépasse les 260 millions dans le monde. Mais quand même, Canal commence à rentrer dans la cour des très grands.
צה"ל נכנס לעזה, נסעתי קצת לאבא, על רקע צ'קה לקה, פקה פקה, מדה זקה. חוזה נגמר שזה סימן שנסיים את הסאגה, ואין לי גג שזה סימן שבטח אין לי קרקע, וגם אין לי מוטיבציה, וגם אין לי מצב רוח, כאילו לא מספיק מתוח, נכנסים לעוד ויכוח, אז אין מקום אחד כרגע, אין מקום בטוח. מומה אוכזב מהעולם, מרגיש שאין פיקוח. מומה אוכזב מהעולם, דירקתי את האירוח, מה היה? להם כל כך דחוף לנגוס מעט תפוח מי בכלל מת על שינויים לא אני חורף בא אני בנדודים לא אני סופרסטאר הומלס קרניבור צמחוני מהבית להורים משם ל-Airbnb בין העיר לפרדס בדרכים תחת אש לאן תשוב הרוח זה עוד אפשר לנחש שהעתיד עוד מטושטש אז הרב הזה מוקדש לכל מי שכמוני מחפש לכל מי שצריך מסלול חדש ותקוע בבירות בגלל השיבושים בווייז מה שנשאר זה לחבר את מה שנשאר מאחור בין העיר לפרדס שוב אני מחפש מקום וכמו שעל המייק אני נוח בינינו עדיין מנסה בכוח כאב מדי לראות הבית פה הוא רק קירות הופעות גדולות מאוד היה לאן לברוח רק שהכל עצר אני הקלתי מה עברתי לאט לאט הפכתי לאחד שלא הכרתי נעלמתי לעצמי כדי שלא יחב לך כדי שלא יחב לי כן זה מאוד רומנטי הלב נשבר אבל הגיע הזמן הזה שהבחר בי הבית ריק עכשיו כמו שסלם ריק מברבי בית 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 בליבי לא היה לי לא ידעתי שאפשר זה טבעי לא ידעתי שמגיע לי מקום גם מבלי שאצטרך להציל את כל מי שסביבי מה זה בית 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 לא קירות לא סירים לא ריחות מוכרים לא הנוף הצפוני הדרומי זה רק איפה שנעים להיות אני וגדרות לא נפרצים ככה באופן פתאומי ולא יהיה אחד וגם לא אמצא אחד לא יהיה הבית של עצמי מה שנשאר זה לחבק את מה שנשאר מאחור בין העיר לפרדס שוב אני מחפש מקום אליי נעים
Mag, l'actu des médias.
L'ARCOM a publié les résultats d'une enquête sur les Français et l'information. 3400 personnes ont été interrogées par l'Institut BVA. Et ça donne à réfléchir. Premier point que j'ai relevé, on leur a posé 4 questions. Par qui Israël a-t-il été attaqué en octobre 2023? La Syrie, le Hamas, l'Égypte, on ne sait pas. Autre question, quel est le nom du Premier ministre anglais? Rishi Sunak, David Cameron, Theresa May, on ne sait pas. En quelle année se termine le mandat d'Emmanuel Macron? 2026, 2027, 2030, ne sait pas. Quel a été le taux d'inflation en moyenne annuelle en France en 2023? 2%, 6%, 12%, on ne sait pas. On ne connaît pas les détails des réponses, mais parmi les résultats, seuls 10% des Français interrogés ont donné les 4 bonnes réponses. 23%, 3 bonnes réponses. 30%, 2 bonnes réponses. 23%, une seule bonne réponse. Et enfin, 14% n'ont donné aucune bonne réponse à ces questions. Pourtant, dans cette même étude, il est dit que 94% des Français se déclarent intéressés par l'information. Et la même proportion déclare s'informer quotidiennement. Les Français se sentent plutôt bien informés sur les sujets qui les intéressent. Ils s'informent pour se relier au réel, comprendre le monde et ses enjeux, se relier aux autres, débattre, discuter, afin de pouvoir se forger une opinion, librement. Mais, et c'est là qu'on commence à comprendre pourquoi seulement 10% des Français interrogés ont été capables de donner les 4 bonnes réponses, malgré cet intérêt, la surcharge d'informations conduit une majorité d'entre eux, 61%, à adopter des comportements d'évitement, changer de chaîne de télévision ou de station de radio, suspendre des notifications des applications. Une stratégie d'évitement qui concerne davantage les jeunes d'ailleurs et ceux qui s'informent plus via les réseaux sociaux. Quoi qu'il en soit, une large majorité des Français a envie de s'informer, mais seulement 39% ont accepté de payer pour s'informer au cours des 12 derniers mois. On remarque dans la même étude que la télévision est le principal mode d'accès à l'information. 66% la regardent tous les jours, 80% au moins une fois par semaine. Oui, mais enfin, est-ce qu'on regarde seulement des programmes d'information à la télévision? Ça, c'est une question. Vient ensuite Cocorico, la radio, que 51% des Français écoutent tous les jours, 67% au moins une fois par semaine. Viennent ensuite les moteurs de recherche, 49% une fois par jour, les réseaux sociaux, 47%. Seuls 34% des Français lisent un journal quotidiennement. 26% vont sur une plateforme de vidéo en ligne. Si les jeunes s'informent principalement sur les réseaux sociaux et les moteurs de recherche, 46% des 15-19 ans s'informent au moins une fois par jour sur une chaîne de télévision et 69% le font au moins une fois par semaine. Tout n'est donc pas perdu pour ces médias. Du côté des réseaux sociaux, Facebook et YouTube sont les plus utilisés pour s'informer. Si les Français favorisent les sources qu'ils connaissent, à 84%, il ne s'agit pas toujours, pour autant, de sources médiatiques. Seule la moitié des Français considèrent que les médias les plus connus sont les plus fiables. Il est intéressant et inquiétant de noter que pour 42% des Français, on peut très bien s'intéresser à des informations sans chercher à savoir si elles sont vraies ou fausses. Pourtant, les Français associent d'abord la fiabilité d'une information à la qualité de sa source, ainsi qu'aux qualités intrinsèques de l'information elle-même, qu'elle soit claire, argumentée et cohérente. Ils reconnaissent très nettement le rôle des médias historiques dans la formation de leur opinion et placent même cette influence avant celle de leurs proches, signe que les médias bénéficient toujours d'une forte légitimité. Les Français ont le sentiment que la fiabilité de l'information diffusée par les grands médias est d'abord menacée par des risques d'interférence avec le pouvoir politique et économique. Il est également à noter que dans cette étude, on a posé 8 questions, dont 6 sont habituellement considérées comme relevant de théories complotistes. 60% des répondants ont adhéré à au moins une thèse complotiste ou plus. Ceux qui ont le plus adhéré sont les plus âgés et ceux qui vont davantage sur les réseaux sociaux. Cette étude publiée par l'ARCOM est quand même assez positive, car j'ai comme l'impression que les Français sont plus informés qu'avant. Mieux ? Peut-être un peu, mais c'est pas pour rien qu'avant, on parlait du café des commerces, où l'on entendait déjà ce que pensent les Français. Et les rumeurs, ça a toujours existé. Bon, maintenant, ça va plus vite. Dans une prochaine chronique, nous reviendrons sur le travail des journalistes, et on verra que pour eux, c'est pas si évident.
SatMag, l'actu des médias.
Call and my own tank F. Je sais pas comment elle en dit me חדשים של אמת קלנית ושקט יפרחו לשובם כל מה שעברנו בדרך גם טעינו אבל בסוף למדנו שלא נוכל לבד כל מה שידענו התברר שלא ידענו ואיך מיום שמחתנו אין לנו רגע דל כל הדמעות הכאב שבקו מהלב עוד יצמיחו עולם שדות פרדסים של המת קלנית ושקט יפרחו לשובם בוקר שמיני יצרת בו הזמן עצר מלכת שואלים חיבלו בקרם לקחו את הגוף אך לא תצלם ואז תוך כדי האלם הרבנו טוב הגדלנו חסד גם ברזל וגם חרך ותפילות בבית הכנסת עד שכל הדמעות הכאב של בקום מעלב לא ישובו רקם לא לא שדות פרדסים של המת מפוחית ופסנתם ינגנו את בואם תדרשנו לדבר היום תכבדנו היום תלבבנו היום תמלטנו תמלטנו מכל רע היום תרחמנו שמור על חיילנו השבט שמוינו אמצי לנו נחמה עד שכל הדמעות הכאב שרפו את הלב יצמיחו עולם שדות פרדסים של אמת קלנית ושקט עכשיו פורחים לשובם
סט מג, לאקטו דה מדיה
Combien ça coûte de produire de l'information en France ? Bonne question à laquelle a tenté de répondre les États généraux de l'information qui ont publié récemment une étude, par ailleurs voulue par le président de la République. En 2023, les médias d'information en France ont généré entre 10,5 à 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Chiffre imprécis car tous les médias n'ont pas répondu aux questions. La presse se finance à 64% par son audience, c'est-à-dire à travers les achats au numéro et par abonnement, 26% par la publicité et seulement 2% par les aides directes de l'État. L'audiovisuel se finance à 43% lui par la publicité et 47% par des aides comme la redevance ou équivalent. Évidemment, dans l'audiovisuel, ces aides vont essentiellement vers le service public. Mais on remarque que le financement de l'information repose à 70% sur les médias privés et 30% sur l'audiovisuel public, pour ce qui concerne les médias grand public. À noter qu'en 10 ans, les recettes publicitaires des médias traditionnels, presse, radio et télévision, ont été divisées par deux. Où est parti cet argent ? Sans surprise vers les GAFAM, les plateformes américaines. Côté dépenses, en 2023, la production de l'information a été évaluée à 2,4 milliards. 3 milliards si on inclut les agences de presse. Plus de 70% des dépenses va vers la masse salariale. Les médias emploient en temps plein plus de 27 000 personnes. 40 000 en intégrant la presse professionnelle et les agences de presse. La presse écrite emploie proportionnellement le plus de journalistes, alors que l'audiovisuel dépense plus dans les professions techniques. C'est logique. La presse est beaucoup numérisée dans sa fabrication jusqu'à sa distribution. Côté audiovisuel, on a encore beaucoup besoin de réalisateurs, des techniciens et tout ce petit, ce grand monde qui met en onde les programmes. À noter que pour la presse, 50% des dépenses va vers la distribution, l'impression, le transport. Sachant que le coût du papier s'est envolé ces derniers mois, il n'est donc pas étonnant que la presse écrite a compris que son avenir passait par les diffusions numériques, beaucoup moins onéreuses. Et, ce n'est pas un détail, moins susceptible d'être perturbé par les syndicats de la distribution dans les messageries. Et l'audiovisuel aussi numérise sa distribution. Plusieurs avantages à cela. Ça coûte moins cher par canal diffusé. Cela permet de diffuser plus de canaux, y compris vers les plateformes. reste à rentabiliser cela pour l'audiovisuel. La création ou la recréation des plateformes des grandes chaînes de télévision et radio a pour but d'attirer les annonceurs, autrement dit la publicité. Si on sait que 80% de la pub numérique va vers les GAFAM, les grandes chaînes ont pour l'avantage, pour l'instant, d'attirer le grand public et les audiences. Il faut en profiter. On a compris, produire de l'information, ça a un coût élevé. Si on veut de la qualité, il faut la payer. Sinon, on aura de l'information mal maîtrisée, de qualité médiocre, bas de gamme. Il ne faut pas compter sur les GAFAM pour bien comprendre nos besoins en termes d'information. Eux pensent plutôt en termes de recettes publicitaires et comment attirer le chaland, c'est-à-dire nous. Et la qualité fait rarement la quantité. Au fait, je rappelle que plus de 70% des dépenses pour produire de l'information vient de la masse salariale. C'est donc pas étonnant que, vu la baisse des recettes, les responsables des médias tentent de réduire les coûts de ce côté-là, autrement dit, en réduisant le nombre de journalistes. C'est ce que l'on voit d'ailleurs dans beaucoup de médias. Et ce n'est pas une bonne tendance si on veut continuer à bénéficier d'une information de qualité.
Satmag, l'actu des médias.
שרפתי את המרצדס בחולות, השמיים בערו מעליי, כבוד של פעם, וויסקי חליפות, תחליט עם אמי כסף או דמעות. איך הכל התחיל, אני לא זוכר, הכוח משקר ללב הזה, כלום לא חודר, הזמן עבר, סיגר נשרף יותר מהר, והיא כבר רחוקה באיזו עיר, אני לא יודע, ניסיתי לתקן, נשבע, ניסיתי לתקן. מה שהייתי פעם לא יחזור, הנשמה יתלח לך במכונית על הספה, כל מה שהיא רצתה ויותר אני לא אסלח, איך שהיא פתאום עזבה. ואני גבר של מילה, אני חותם לך, לא נחזור בחזרה. דוגמניות ונובורי של חבורת אינטרסנטים, אח שלף אקדח בום אחד, הלך צנות פשע במדבר, מה לא היה לי, בסוף הייתה זו היפה שהרגה את החיה, וככה זה נגמר, עולם אכזר, סיפור של גבר תאמר. מה שהייתי פעם לא יחזור, הנשמה יתלח לך במכונית על הספה, כל מה שהיא רצתה ויותר שהיא פתאום עזבה. ואני גבר של מילה, אני חותם לך, לא נחזור בחזרה.
Satmag, l'actu des médias.
Quelle est la différence entre télévision et plateforme de vidéo à la demande, style Netflix ou autre? Si au départ la réponse à cette question était simple, la télévision, d'abord ce sont des chaînes de télévision dont on regarde les programmes les uns derrière les autres, ce que l'on appelait aussi parfois la télévision linéaire. Ce sont des chaînes diffusées sur des réseaux hertziens, ce que l'on appelle aussi la TNT, mais aussi via différents réseaux, satellites ou internet. Et les plateformes, ce sont des sites où l'on peut choisir des programmes que l'on va regarder à la demande, d'où leur nom. Contrairement aux chaînes linéaires, les bouquets ne sont pas diffusés sur les réseaux hertziens. Mais très rapidement, cette dichotomie entre les deux n'est plus aussi évidente qu'il ne paraît. Prenez par exemple Canal+. Au départ, c'est une chaîne, puis trois chaînes diffusées en hertzien, sur la TNT et autres réseaux. Mais Canal est de plus en plus regardé à la demande, via sa plateforme, MyCanal. On n'a pas de statistiques sur son utilisation, mais il est probable que, sauf événements en direct, comme le sport, ou de grandes soirées comme les Césars, les abonnés regardent le reste des programmes à la demande. Donc Canal est finalement, serait finalement, un système hybride entre télévision et plateforme. Pour beaucoup d'observateurs, si Canal+ propose encore des chaînes de télévision classiques, c'est pour faire une différence avec les plateformes et conserver ses avantages, sur les délais de diffusion des films par exemple. Oui, mais certaines plateformes proposent aussi du direct, généralement du sport, mais sur des canaux avec une utilisation plus ou moins ponctuelle, et des canaux qui ne sont pas sur la TNT. Pour revenir aux chaînes de télévision historiques, elles proposent toutes leurs plateformes, comme TF1+, M6+, Arte.tv ou France.tv pour France Télévisions. Au départ, simple outil de replay, désormais elles s'étoffent et propose plus pour plus longtemps. Tout cela pour attirer la publicité, qui est vendue plus cher sur ces plateformes que sur les chaînes en direct, plus cher par téléspectateurs touchés. Les chaînes historiques savent que pour elles, c'est la seule manière d'attirer les annonceurs, qui jusque-là vont presque exclusivement vers les GAFAM, ces grosses boîtes américaines, pour tout ce qui concerne la publicité numérique. Même si les Netflix, Disney et autres Prime montent en puissance, les chaînes de télévision historiques conservent l'avantage d'être très connues par les Français et leurs programmes sont très forts. Mais quand même, on va dire qu'au départ, la différence entre télévision et plateforme, c'est que la télévision, c'était gratuit et les plateformes payantes. Ouais, mais ces distinctions s'effacent. Les plateformes misent de plus en plus sur la publicité. D'abord parce qu'il y a trop de plateformes. Et pour les téléspectateurs, oui, on va appeler ce téléspectateur tous ceux qui regardent des programmes, quels qu'ils soient. Donc pour des téléspectateurs, impossible de s'abonner à toutes les plateformes. Jusque-là, pour baisser le coût de l'abonnement, certaines plateformes restaient payantes, mais proposaient aussi une formule moins chère si on accepte de voir de la publicité. Mais Prime va plus loin. En France, la filiale d'Amazon a un statut un peu particulier. Beaucoup d'utilisateurs sont abonnés d'abord pour bénéficier de tarifs de livraison moins chers et même gratuits pour leurs commandes passées sur Amazon, le site de commerce. Le bouquet Prime est une sorte de prime presque gratuite. Et donc Amazon, qui pour l'instant ne proposait pas de publicité dans son bouquet, change de stratégie. Tous ses utilisateurs vont désormais voir de la pub, avant, pendant et après les programmes. Seuls ceux qui acceptent de payer 2 euros de plus en seront dispensés. C'est donc l'inverse de Netflix, qui propose une formule moins chère si on accepte la publicité. Avantage donc pour Prime, tous ses utilisateurs, autrement dit 7 millions d'abonnés, vont, sauf exception, regarder les publicités. Sachant qu'Amazon sait exactement ce que vous avez acheté, les annonceurs vont pouvoir cibler leur publicité au plus fin. Et ils sauront qu'ils vont pouvoir toucher tous les abonnés à Prime. Enfin, ceux qui regardent les programmes évidemment. C'est une grosse évolution sur ce marché qui fait que désormais, les chaînes de télévision misent de plus en plus sur les plateformes et les plateformes misent de plus en plus, elles, sur la publicité, avec des formules gratuites ou presque. Ça change tout.
7 Mag, l'actu des médias.
Vous écoutez Radio J.
Radio J.
עכשיו, הרגע לא חיכינו, את רואה, אמרתי לך שכל זה התגשם. כולם כאן מסביבנו, מוחאים כפיים. אני מודה לו בכל בוקר, מתנה שאלוהים שלח אותך אליי. הבאת לי את האושר בעיניים. את כל משאלות שלי אני ביקשתי היום חלום שלי שרק תהי מאושרת גם אם יפלו הכוכבים אני שלך לעולמים דמעות זולגות אהובתי עלינו כמו גשם חיכיתי לך כל השנים לי בשמיים מלאכים באים אלינו ואת ולבן תסתכלי לי בעיניים מקודשת רק את נותנת לי לזרוח שאני שוקע בעצמות תמיד עד שם עוזרת לי לשמוח להרגיש כמו מלך את כל שאלות שלי אני ביקשתי היום חלום שלי שרק תהי מאושרת גם אם יפלו הכוכבים אני שלך לעולמים מאות זולגות אהובתי עלינו כמו גשם חיכיתי לך
החיים שיהיה לנו שקט.
Mag, l'actu des médias.
Comme chaque semaine, on jette un coup d'œil sur les audiences de la télévision la semaine dernière. Donc pour la période du 15 au 21 avril, des chiffres publiés par Médiamétrie et analysés en collaboration avec nos confrères de Satellifax. TF1, France 2, France 3 sont en baisse, alors que France 5 et M6 progressent. TF1 donc accuse la plus forte baisse de la semaine, moins 0,6 points. La chaîne est à 18,2% de part d'audience. La journée recule, l'accès progresse, la chaîne est tirée vers le bas par son prime time. Lundi, le lancement de la saison 5 des Bracelets Rouges démarre doucement. Et dimanche, le film Les Animaux Fantastiques, Les Crimes de Grindelwald, fait moins bien que le film proposé la semaine dernière. France 2 en baisse, mais moins que TF1. Moins 0,4 points. France 2 est à 14,5% de part d'audience. Le JT 13h recule de 0,7 points à 20,2% de part d'audience. Samedi, l'absence de rugby, remplacée par affaire conclue, fait dégringoler la tranche 16h-18h. Logique. En access, progression de N'oubliez pas les paroles et tout le monde a son mot à dire. Le prime time est en baisse donc sur France 2 de 0,2 points. Le mardi, le documentaire Les Derniers Secrets de l'Humanité perd 1 point par rapport à la semaine dernière. Mercredi, la fiction Les Malvenus tombe de 2,5 points. Point, toujours par rapport à la semaine dernière. France 3 est en recul sur toutes les cases. La chaîne marque une baisse de 0,5 points. Elle est à 8,7% de part d'audience. La journée, le jeu Duel en famille recule de 1,6 points. En access, le journal régional Ici 1920 recule de 0,9 points à 13,6% de part d'audience. Le prime est tiré vers le bas par le documentaire Indochine, une révolution musicale diffusée vendredi et la série Cassandre. Pas de très bons résultats. M6, 8,3% de part d'audience, une progression de 0,3 points. La journée affiche une part d'audience correcte, en hausse. L'accès est en baisse à cause du recul de la meilleure boulangerie de France. Et le prime time augmente de 0,3 points, porté notamment par le match retour de la Ligue Europa pour une Benfica du football diffusé jeudi. France 5 signe la plus forte hausse de la semaine. France 5 est à 3,6% de part d'audience, plus 0,4 points. Et évidemment, la chaîne est stable, mais c'est l'accès qui est en progression, porté par le retour des inédits de C'est à vous. Le prime time de France 5 gagne 0,6 points, notamment grâce au documentaire Les Trésors de Marcel Pagnol. À 3,1% de part d'audience, Arte reste stable, avec une toute petite progression de 0,1 point. Le prime time est en forme dans l'univers que l'on appelle TNT. Je vous rappelle que toutes ces chaînes dont je vous ai parlé jusqu'à présent sont sur la TNT. Mais l'univers TNT, ce sont les chaînes créées à partir de 2005. Donc C8 reste en tête, 3,3%, en baisse de 0,1 point, suivi de TMC, 2,8, en baisse de 0,2 point. Au global, faut dire que Quotidien est à la baisse du fait des rediffusions. À noter, RMC Découverte est à 2%, plus 0,2 points au global. Elle progresse en access grâce à la diffusion du match Europa Conférence Lille-Aston Villa, diffusé jeudi, qui a réuni 609 000 téléspectateurs, soit 3,5% de part d'audience. Si on regarde les résultats par groupe, Groupe France Télévisions est en tête, comme d'habitude, 26,8% de part d'audience, mais une perte de 0,5 points. Toutes chaînes confondues, hors chaîne d'info. Je vous rappelle que les chaînes d'information ne se mesuraient officiellement qu'une seule fois par mois. Groupe TF1, 24,8% de part d'audience, moins 0,7 points, donc une baisse encore plus forte que France Télévisions. Groupe M6, 13,3%, une petite progression de 0,2 points. Voilà, c'était donc les audiences de la télévision la semaine dernière, donc pour la période du 15 au 21 avril, des chiffres publiés par Médiamétrie et analysés en collaboration avec nos confrères de Satellifax.
Satmag, l'actu des écrans.
עד כבר לא מקשיבה לי, אין כבוד פה בינינו, המילים שאמרת לי, אוי ריבונו של עולם, איך נפלנו לעצב, איך איבדנו את הקצב, ריקודים שרקדנו, מתחלפים בשתיקה. את הולכת, הולכת רחוק מכאן, למה אין אוויר בריאות? למה כל כך קשה לך לראות אותי? גומר אותי
שקט גמר אותי.
סאטמאג, לאקטו דה אקראן.
Bon, pour terminer, comme chaque semaine dans Satmag Hebdo, on va évoquer les programmes qui seront diffusés à la télévision la semaine prochaine, à la télévision ou sur les plateformes. Ce dimanche sur France 5 à 21h06, je vous conseille de regarder un documentaire, L'Inde de Modi, la démocratie confisquée. Narendra Modi, le premier ministre indien, a lancé sa campagne pour un troisième mandat à la tête du pays. Ce film raconte le virage de l'Inde vers un pouvoir autoritaire. Étonnamment, cela ne gêne pas grand monde. Pas beaucoup de manifestations pour dénoncer ces abus.
Tout tourne autour de sa personne.
Narendra Modi, c'est une rock star.
Mon gouvernement n'a qu'une religion.
India first.
L'Inde d'abord.
Le slogan de l'époque était « Les beaux jours reviennent ».
Toutes les chaînes d'infos se sont écroulées.
Et je peux vous dire que c'est une bataille pour la survie. Depuis que Modi est au pouvoir, les gens sont pleins de haine.
On tue les musulmans aujourd'hui dans ce pays.
Nous ne sommes plus une démocratie.
L'Inde de Modi, la démocratie confisquée. Un documentaire suivi d'un débat présenté par Mélanie Taravant. Dimanche à 21h05 sur France 5 et sur la plateforme France.tv.
Toujours ce dimanche 28 avril, cette fois-ci sur la chaîne Paris Première qui propose à 21h un documentaire Nuremberg, les nazis face à leurs crimes. Nuremberg, 20 novembre 1945, dans une ville en ruine, 6 mois à peine après la capitulation allemande, s'ouvre le procès des criminels nazis. Les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et l'Union soviétique sont réunis pour rendre une justice exemplaire en réponse aux crimes contre l'humanité. Sur les bancs des accusés, 22 dignitaires nazis. Tous plaident non coupables, malgré les atrocités commises. Donc je vous conseille de regarder ce soir sur Paris Première à 21h, le documentaire Nuremberg, les nazis face à leurs crimes. Ce lundi 29 avril à 22h59, très précisément sur France 3, mais aussi vous pouvez regarder ce programme en replay, je vous propose de regarder le documentaire Sauvant les enfants. C'est signé Catherine Bernstein. Le 11 septembre 42, près de 600 juifs sont réunis dans la gare de triage de Lille. Et cela pour être envoyé vers le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Seulement une quinzaine en reviendra. Conscience du péril qui les menaçait, une vingtaine de cheminots et quelques riverains se sont mobilisés pour arracher à leur destin une quarantaine de personnes, dont plus de 25 enfants.
Le vendredi 11 septembre 1942, dans le nord de la France occupée, des centaines de juifs ont été arrêtés, rassemblés en gare de Lille-Fives, puis déportés vers les camps de la mort nazie. De cette gare, il ne reste plus rien aujourd'hui. Et il s'en est fallu de peu pour que l'histoire dont elle fut le théâtre sombre aussi dans l'oubli. Mais un rapport du chef de gare de l'époque a été retrouvé dans les cartons d'un brocanteur, sur le marché de Oisem, à Lille. D'après ces maigres documents, des cheminots et des riverains ont, à leurs risques et périls, contourné l'étroite surveillance des Allemands pour sauver de la déportation une quarantaine de personnes, dont la plupart étaient des enfants. Il s'agit en Europe de l'un des plus grands sauvetages de juifs en partance pour Auschwitz. Que s'est-il passé ce jour-là ? Comment se fait-il qu'un tel événement soit resté à ce point méconnu ? Hanté par ces questions, je suis parti sur les traces du 11 septembre 1942.
Donc je vous conseille de regarder ce lundi 29 avril à 22h59 sur France 3, le documentaire « Sauver les enfants ». Vous pouvez aussi le regarder en replay, évidemment, sur la plateforme France.tv. Ce mardi 30 avril, Canal Plus propose à 21h10 le film Le Consentement. Mais évidemment, vous pouvez le retrouver sur la plateforme MyCanal. Donc c'est un film de Vanessa Philo, ça date de 2023. C'est d'après le livre de Vanessa Springora. C'est donc avec Kim Higelin, Jean-Paul Rouvre et Laetitia Casta. À Paris en 1985, Vanessa a 13 ans lorsqu'elle rencontre Gabriel Nazneff, écrivain quinquagénaire de renom. La jeune adolescente devient l'amante et la muse de cet homme célébré dans le monde culturel et politique. Se perdant dans la relation, elle subit de plus en plus violemment l'emprise destructrice que ce prédateur exerce sur elle.
La lecture d'un livre peut changer le cours d'une vie. C'est pour ça qu'il est capital de rencontrer ses maîtres le plus tôt possible, quand l'esprit se ferme. Qui as-tu déjà rencontré ou admiré, toi, Vanessa ?
J'étais avec Gabriel, maman. Regarde, il m'a écrit un poème. Et même, il me l'écrit.
Il est dans ta classe ?
Non.
Il a 50 ans, t'en as 14 à peine ! Il se sert de toi !
Ce qui se passe entre nous, c'est très beau, c'est très rare. Ce n'est que de l'amour. C'est une chance pour toi que je sois le premier.
C'est un pédophile, tout le monde le sait.
C'est n'importe quoi, est-ce que tu dis j'ai plus 8 ans, je suis plus une gosse ?
Qu'est-ce qui t'a pris de te maquiller ? Tu veux avoir l'air d'une dame, c'est ça ? Tu es mon dernier amour.
On sait que les vieux monsieur attirent les petits enfants avec des bonbons. Monsieur Maznev, lui, les attire avec sa réputation. Ce que l'on ne sait pas, c'est comment s'en sortent-elles, ces petites filles.
Gabriel ! Personne ne peut comprendre.
Donc je vous conseille de regarder, quand vous voulez, sur Canal+, ou sur la plateforme MyCanal, le film Le Consentement, signé Vanessa Filio.
Satmag, l'actu des écrans.
Et bien voilà, Satmag c'est terminé. Satmag Hebdo, c'était Serge Surpin qui vous proposait sur Radio J toute l'actualité des médias, toute l'actualité de la communication, toute l'actualité des écrans. J'espère vous retrouver dès la semaine prochaine, toujours sur cette fréquence, en DAB ou en numérique. Passez de bonnes fêtes, passez de bons moments à l'écoute de votre fréquence préférée.
Sur Radio J.
Radio J. Radio J.
Ma chérie, écoute-moi, je veux juste te parler. Et viens vite avec moi, on va se balader.
Radio J. Radio J.
Radio J. Radio J.